RMC, Intégral Tour.
Tu te mets sur le vélo, voilà, tu te mets bien droit, voilà.
Christophe Cessieux.
Et tu poses genre, j'attaque le col, ok?
On attaque le col, mais nous aussi on attaque le col avec le peloton de ce Tour de France 2015. Les deux dernières difficultés de la journée, le port de Lerse et évidemment tout à l'heure le plateau de Baye. Nous sommes à 58 km 400 de l'arrivée. Fred, on va faire un point de cette course avant de retrouver Georges Quirino sur la moto qui nous donnera des nouvelles du temps. Mais ici c'est la grosse averse sur le plateau de Baye. Fred, le top course.
RMC Top Course.
Avec la tête de course au début de l'ascension du port de Lerse, l'avant-dernière difficulté de la journée, classée en première catégorie avant la redoutable et redoutée ascension finale vers le plateau de Baye où nous nous trouvons à près de 1800 mètres d'altitude. Journée reine dans les Pyrénées aujourd'hui, le troisième volet de la trilogie pyrénéenne. Trois hommes en tête à 58 km de l'arrivée. Le champion du monde, vainqueur de l'Amstel Gold Race cette année, Michał Kwiatkowski, le Polonais, accompagné du Belge spécialiste des classiques flandriennes, Sepp van Marck, coureur de l'équipe Lotto Jumbo, et puis un inconnu autrichien qui s'appelle Georges Predler. Il a 25 ans et il est coéquipier du français Warren Barguil au sein de l'équipe allemande Giant Alpecin. Ces trois hommes-là ont pris leur devant sur leurs anciens compagnons d'échappée. 17 poursuivants pointent à une minute tout rond au dernier pointage. 17 coureurs parmi lesquels les Français Romain Bardet, le réveil de Romain Bardet aujourd'hui chez AG2R accompagné de Michael Chérel, Mathieu Ladanius également présent côté français, Romain Sicard, Anthony Delaplace et Frédéric Brun. Il y a également dans ce groupe de poursuivants Joaquin Rodriguez ou le grimpeur sud-africain Luis Mengis. Le peloton maillot jaune emmené par les Sky de Christopher Froome est lui pointé à 12 minutes 20. Pour l'instant, c'est le trio tête qui fait la bonne opération dans le port de Lerse.
La moto RMC, Georges Quirino, les conditions climatiques qui sont en train de se détériorer à nouveau dans l'ascension du port de Lerse, ou pour l'instant c'est encore sec?
Pour l'instant, c'est encore. On n'a pas de gouttes de pluie, mais la chaussée est mouillée hein, sous nos roues. Donc ça nous donne un indice peut-être par rapport à ce qu'il nous attend. On est derrière le groupe des poursuivants, derrière le trio de tête. Et il y en a un petit peu partout là. Il y a des lâchés, notamment Mathieu Ladanius qui n'est plus dans ce groupe de poursuivants. Frédéric Brun qui n'est plus là également. Liu Vestra également qui est lâché. Dani Navarro également, l'Espagnol de la formation Cofidis qui lâche quelques hectomètres là, qui déshydrate en récupérant un bidon. Et puis devant nous également c'est Sylvain Chavanel également qui est décramponné du groupe de poursuivants, le voyant en difficulté depuis quelques minutes. Et là il est vraiment totalement arrêté sur cette ascension. Il va essayer de la faire à son rythme désormais dans cette montée du port de Lerse.
Très bien, Cyril, notre druide, donc tout à l'heure tu étais en colère contre Michael Chérel qui a laissé partir les hommes de tête. Effectivement, là ça va se compliquer parce que Kwiatkowski semble avoir un bon coup de pédale aujourd'hui, Cyril. Hein.
Oui, tout à fait, mais c'est assez bizarre parce qu'ils avaient 1 minute 40 d'avance et puis ils se sont relevés, le groupe de 3 s'est relevé. Et pour l'instant, eh bien, à l'arrière, l'écart s'est réduit, bien sûr. Et puis, c'est Chérel maintenant qui passe à la contre-offensive. Et c'eût été mieux d'être dans le premier groupe au départ, mais... Mmh. Apparemment devant on se regarde.
Et oui, on se regarde, et Kwiatkowski qui me semble est en train de s'envoler en tête de ce groupe d'échappés. Sur la route du Tour pour cette étape reine des Pyrénées, 57 km de l'arrivée, et en tête du groupe d'échappés, il me semble qu'un petit Français est en train de renaître de ses cendres.
Alors Fred, c'est pas en tête du groupe d'échappés, c'est à l'avant du groupe de poursuivants, puisqu'on vous rappelle que Kwiatkowski et Van Marck sont toujours en tête. Derrière, le groupe des poursuivants est en train d'exploser dans l'ascension du port de Lerse. C'était Michael Chérel tout à l'heure, le Normand de l'équipe AG2R La Mondiale, qui secouait le cocotier pris en chasse par Jacob Fuglsang et le jeune sud-africain Louis Mengis, pris en chasse, puis relayé, contré même par Romain Bardet, son leader chez AG2R La Mondiale, qui renaît de ses cendres aujourd'hui. Romain Bardet qui est en train de partir seul en contre-attaque derrière les deux hommes.
Alors
de tête.
Ça peut paraître quand même surprenant, Cyril. Hier, Bardet était malade. On a dit qu'il avait même vomi à plusieurs reprises dans cette étape en direction de Côte.
Comme avant-hier,
deux jours de gastro, en quelque sorte.
Coup de chaud, à mon avis.
D'un coup de chaud, et aujourd'hui, résurrection. Comment on explique ça? Parce que quand t'es pas bien, quand même, ça, comme pendant deux jours, est-ce que tu peux redevenir performant aussi rapidement? C'est étonnant, non, Cyril?
Oui, sauf que si on écoute ses déclarations hier soir, il annonçait quand même un léger mieux dans son comportement. Et j'ai plutôt l'impression que hier, à partir du moment, parce qu'il a été un petit peu en difficulté, et puis progressivement, il a repris place dans le groupe où il était, et finalement, il finit pas trop mal. Alors peut-être que au fil des kilomètres, sentant que les jambes revenaient, je pense qu'il n'a pas insisté pour garder des forces pour aujourd'hui. Et aujourd'hui, ben, il va jouer son va-tout, et c'est ce qu'il fait. Je crois que il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut avoir des défaillances. On l'a déjà évoqué, bien sûr. Soit ça vient d'une grosse désillusion par rapport aux objectifs qui étaient celles du coureur. Donc là, on tombe dans une crise, on va dire, dépressive. Ou alors c'est un élément extérieur. Et pour Bardet, il semble que ce soit un élément extérieur. Et effectivement, problème purement gastrique ou un petit coup de chaleur. Et là, derrière, on va retrouver de la force assez rapidement.
Très bien. Bon, on l'espère pour lui, notre ami Bardet, qui était à l'agonie durant ces deux dernières étapes. Mais effectivement, Cyril a raison de le signaler. Il a mieux terminé que Pinot et Perrault, qui ont terminé dans l'autobusière, dans le groupe Eto, alors que Bardet a quand même limité les dégâts. Il est arrivé, je crois, avec un retard de 11 minutes. Donc aujourd'hui, la résurrection de Romain Bardet, qu'on espère voir à l'attaque, et encore mieux remis de tout ça dans les Alpes dans quelques jours, Fred.
Hein. Oui, résurrection, même si c'est difficile de comparer la course des prétendants au classement général et ceux des largués. Romain Bardet qui pointait ce matin à plus de 22 minutes au classement général. Donc il joue, on va dire, le franc-tireur, le baroudeur aujourd'hui, un rôle qui est plus facilement endossable. Mais Romain Bardet reste un super coureur. Quelle allure du grimpeur auvergnat âgé de 24 ans, sixième du dernier Tour de France, vainqueur de l'étape de Praloux que l'on empruntera dans quelques jours dans les Alpes sur le dernier critérium du Dauphiné. Romain Bardet désormais accompagné de Jakob Fuglsang, le Danois de l'équipe Astana, et du très prometteur Louis Mentis de l'équipe MTN Kubeka, un Sud-Africain, ancien champion d'Afrique l'année dernière. Il découvre le Tour de France, ce petit grimpeur Sudaf, et ils sont en train de revenir, ces trois-là, sur le duo tête, toujours composé de Kwiatkowski et Vandemark. On est à 56 km de l'arrivée. La tête de course compte près de 12 minutes sur le groupe maillot jaune.
15h16 sur RMC. On continue de faire nos petites rubriques et on va attaquer la musette maintenant. Savoir ce que RMC, nos reporters, nos consultants et nos commentateurs ont ramené dans leur musette aujourd'hui.
RMC Intégral Tour. La musette.
La musette, donc, avec plein de petites infos. Qui veut commencer? On va peut-être aller sur la moto RMC, Georges.
Oui, on peut. Moi, ma musette, c'est quelque chose que j'ai vu en début d'étape. Vous vous en doutez quand vous l'avez vu sur le parcours, le porté d'aspect que l'on franchissait aujourd'hui. Il y a 20 ans, Fabio Casartelli, le coureur italien, trouvait la mort dans la descente du porté d'aspect. Et bien, comme tous les ans, mais cette année encore plus, on va dire, pour la 20e année, et bien, on a vu le Tour de France s'arrêter. En tous les cas, la voiture rouge de Christian Prudhomme, le directeur du Tour, qui s'est arrêté en compagnie du Premier ministre Manuel Valls, vous savez, qui est dans la voiture numéro 1 aujourd'hui, côté des directeurs du Tour. Il y avait également Jim Otsovitz, le patron de la formation BMC aujourd'hui, mais qui était le patron de l'équipe Motorola il y a 20 ans, de l'équipe de Casartelli, qui était là. Il y avait également de la famille de l'Italien devant cette stèle blanche où on peut voir représenter une roue et les anneaux olympiques, hein, lui qui avait été champion olympique. Voilà, donc toujours ce moment de communion, une gerbe de fleurs qui a été laissée sur la stèle pour rendre hommage à Fabio Casartelli, ancien coéquipier également de Lance Armstrong, qui doit avoir lui aussi une pensée alors qu'il est revenu sur les routes du Tour l'américain.
Très bien, effectivement, Fabio Casartelli, donc une chute terrible dans la descente du porté d'aspect, la tête qui avait frappé le petit muret sur le bord de la route. C'est la dernière fois qu'un coureur est mort encore sur la route du Tour, hein, me semble-t-il, hein, Fred. Depuis, heureusement, on a évité ce genre de drame. Hein.
Oui, sur la route du Tour, parce que...
Oui, il y a eu d'autres accidents
mortels, bien sûr. Évidemment, il y en a eu beaucoup trop, mais ça s'appelle les risques du métier. Comme on ne cesse de le répéter, le cyclisme est un sport d'extérieur, un sport soumis aux aléas, eh bien, que ce soit de la météo ou des éléments extérieurs, un sport de funambule également, un sport de casse-cou, et quels que soient les coureurs et quelle que soit leur performance performance sportive. Évidemment, ancien coureur ou coureur contemporain, ils méritent tout notre respect. Eux qui jouent leur vie quasiment chaque jour sur des pneus de 23 mm de large.
Très bien. Quelqu'un d'autre pour la musette, monsieur Leroux, peut-être, notre barde.
Une musette à distance, oui. Puisque on l'a dit tout à l'heure, hein, Lance Armstrong est un jour en avance pour une noble cause sur les étapes du Tour, et donc présent aujourd'hui en France. Nous avions une équipe sur place qui nous a raconté ce qui s'était passé, et notamment une réaction de Lance Armstrong, puisqu'il a répondu régulièrement aux journalistes qui étaient présents, une réaction à la petite phrase de Thierry Braillard hier, le secrétaire d'État au sport, disant il ferait mieux d'aller passer ses vacances ailleurs plutôt que d'être présent ici en France. Lance Armstrong n'a pas trop apprécié, disant mais pourquoi me poser cette question, il y a bien Laurent Jalabert, il y a bien Bernard Hinault sur le Tour de France, voilà, pourquoi moi je ne devrais pas être là. Donc petite provocation supplémentaire de Lance Armstrong qui s'amuse aujourd'hui avec les médias aussi. Il est à distance avec le Tour de France géographiquement, mais en fait il est toujours un petit peu présent. L'Américain destitué de ses 7 titres de vainqueur du Tour.
Voilà, et qui a provoqué une belle effervescence au départ de l'étape.
Énormément de monde.
Et surtout, énormément de journalistes. Hein. On a l'impression que c'est surtout les journalistes que ça intéresse. Nous, un peu moins les spectateurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais si on d'ailleurs, notre question tout à l'heure avec nos confrères du Parisien tournera autour de cette question. Mais c'est vrai que les spectateurs, Fred, ne se sont pas bousculé sur les routes du Tour pour voir Lance Armstrong.
Il était tôt à Muret ce matin pour le départ de Lance Armstrong. Il était derrière la porte de son bus, camouflé, bien caché, avant même 8h du matin. On est au mois de juillet. Il y a pas mal de vacanciers à Muret dans le département de la Haute-Garonne. Donc il y a eu davantage de journalistes que de spectateurs. Cela peut se comprendre, mais c'est vrai, Lance Armstrong qui continue, je crois que c'est le verbe à employer, de vampiriser le Tour de France.
Mais sur sa journée, il s'est arrêté régulièrement parce qu'il y avait quand même des gens sur le bord de la route pour faire des photos, pour signer des autographes. Donc il y avait un petit peu de monde, mais pas autant que demain sur la même étape, évidemment, où les coureurs du Tour seront présents.
Très bien, plus de musette, c'est bon. Vous avez tout, non, pas beaucoup d'infos. On commence à pêcher.
On a chargé la musette hier soir aux Trois Vallées à Lugagnan. Du coup, la musette du soir est largement suffisante.
La musette est vide, hein, monsieur Adam, monsieur Pinard.
Pas besoin de faire le ravito dans la matinée.
Très bien, on range la musette, on range l'accordéon et on revient demain avec des infos, messieurs, s'il vous plaît. Hein, on va pas se démobiliser. Le Tour de France n'est pas encore terminé. Peut-être que Luc Leblanc a quelque chose dans sa musette, mais il a surtout des victuailles dans sa musette. Non, pas vraiment. Il a des bonbons. Il est en train de manger des bonbons.
Il a surtout les yeux fermés.
Oh là
là, ça a l'air de piquer aujourd'hui.
Soir, mais à mon avis,
quand on tire sur la corde,
il va bâcher.
On tire sur la corde et l'élastique, ça fait beaucoup en même temps. 15h21. La moto RMC, Georges Quirino.
Dans l'ascension du port de l'Hers, on se rapproche du sommet et on a un visuel là un petit peu sur tout ce qu'il se passe. Kwiatkowski qui emmène toujours Sepp Van Mark dans sa roue et envoie une centaine de mètres derrière le groupe avec Michael Schérel qui emmène Romain Bardet également qui est là en troisième position. On voit Jakob Fuglsang qui est là. Ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. 7, ils sont 7 derrière Kwiatkowski et c'est Sepp Van Mark qui a assuré la poursuite. Ils sont en train de se rapprocher. Le rythme est plus élevé dans le groupe de poursuivants, emmené par Romain Bardet notamment, que dans le duo de tête de Michel Kwiatkowski et Sepp Van Mark. Est-ce que tu veux une musette en plus, mon cher Christophe?
Ah, mais oui, mais voilà,
le faillot,
compenser l'absence de musette. Vas-y, on va remettre l'accordéon. Voilà l'accordéon. Ça, c'est
moi là. Hey, wouhou! Ouais, mais moi, l'avantage, c'est que je passe par la zone de ravitaillement, donc je peux récupérer plein de musettes. Non, mais une musette sur l'équipe Sky, quand même. Sur la formation Sky, parce que désormais, il est possible que ce soit ma musette jusqu'à la fin du tour, car tous les matins, je suis désormais obligé d'aller voir le bus Sky. Pour vous signaler deux choses. Déjà, ils sont de plus en plus discrets, quand même, au départ. On a pu constater ce matin que Christopher Froome restait désormais le plus longtemps possible dans son bus pour sortir, mais vraiment à la dernière seconde. Il est sorti tout à l'heure à 4 minutes du départ. Donc alors, est-ce qu'il veut un peu se cacher du public? On sait qu'il y a eu des sifflets hier et des pancartes un petit peu le critiquant. On peut se poser la question. Il est sorti, il n'a répondu qu'à une question des journalistes, alors que d'habitude il prend un peu plus de temps, le maillot jaune. Il avait un peu le masque, hein, quand même, Christopher Froome, qu'on a déjà vu plus souriant et plus sur la stratégie du jour peut-être, hein. Je parlais avec Nicolas Portal, notamment le directeur sportif. Je lui demandais, est-ce que vous vous imaginez encore écraser le Tour si vous en avez l'occasion aujourd'hui, ou plutôt contrôler. Il me disait qu'on était plutôt dans l'idée du contrôle aujourd'hui, plutôt que d'asseoir encore un peu plus l'autorité des Sky, comme on a pu le voir à la Pierre Saint-Martin. Donc si l'on en croit Nicolas Portal, on ne devrait pas voir, à moins qu'ils aient vraiment une grosse occasion, Christopher Froome et Richie Porte essayer de décramponner encore une fois tout le monde dans la montée finale aujourd'hui.
Alors un petit message également à l'attention du service communication de la formation Sky. Dale Boisford, vous l'avez entendu sur RMC hier, inviter les journalistes à venir visiter le motorhome. Alors évidemment derrière Pierre-Yves, Pierrick et Georges ont fait la demande officielle. Pas de réponse pour l'instant. En revanche, les caméras de France 2 ont eu le droit d'y aller visiter. Faut dire qu'il n'y aura pas de questions gênantes. Ça, de ce côté-là, vous inquiétez pas. Il risque pas d'y avoir de caméras indiscrètes du côté de nos amis et confrères de France Télévisions. Très bien. 53 km de l'arrivée, ça c'est dit. Ça c'était pour répondre à une petite attaque qu'on a reçue hier de la part d'un commentateur vedette. Voilà la réponse. Fred, 53 oui. km de l'arrivée.
Oui, à 2 km du passage au port de l'Hers. Le port en langage local, ça veut dire col. Col de l'Hers, classé en première catégorie. Toujours deux hommes à l'avant de la course et pas des moindres. Le champion du monde polonais Michał Kwiatkowski et le belge flamand Sepp Van Marck. Il compte moins de 10 secondes d'avance maintenant sur un groupe de contre-attaque où l'on trouve Romain Bardet, Romain Sicard, Joaquin Rodriguez, Luis Mengis, Jakob Fuglsang notamment, de très bons second couteau, de très bons battus de l'avant-veille vers la Pierre Saint-Martin qui tentent d'inverser la tendance aujourd'hui. Le groupe maillot jaune est à 10 minutes 30 de tous ces hommes.
15h25 sur RMC, on revient dans un instant pour le final de cette étape avec donc les deux dernières ascensions et surtout l'ascension du plateau de Bayonne. On espère qu'il va se passer quelque chose dans le groupe maillot jaune, que certains vont oser attaquer. Pour l'instant, c'est pas le cas, faut bien vous le dire, et on a un peu l'impression que tout le monde joue battu d'avance. J'espère que je me trompe et que tout à l'heure dans l'ascension du plateau de Bay, on verra des attaques. À tout de suite.
RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
51 km de l'arrivée de cette 12e étape Reine des Pyrénées, qui pour l'instant ne donne pas lieu à de multiples attaques en tous les cas entre les leaders, mais il y a une échappée devant, une échappée dans laquelle on trouve pas mal de Français. Avant de faire un point sur cette échappée, Fred, un mot sur l'une des vedettes françaises de ce Tour de France, en tous les cas que l'on espérait comme vedette, Jean-Christophe Perrault, qui à la différence de Romain Bardet, lui vit jour après jour un véritable calvaire sur les routes du Tour. C'est encore le cas aujourd'hui.
Oui, le Toulousain de l'équipe AG2R La Mondiale, deuxième du dernier Tour de France, qui est à nouveau, une nouvelle fois, en train de craquer dans l'ascension du port de l'Hers à la dérive. Le coureur de la formation AG2R qui vient de décrocher à plus de 55 km de l'arrivée à mi-port de l'Hers. Il reste encore une grosse quarantaine d'unités dans le peloton maillot jaune et il vient de s'en laisser décrocher, Jean-Christophe Perrault, qui, au contraire de Romain Bardet, ne se refait pas. Michał Kwiatkowski et Sepp Van Marck, les deux hommes de tête, vont bientôt passer au port de l'Hers. L'avant-dernière difficulté de la journée, dans leur sillage, un groupe de contre-attaquants où l'on retrouvera Georges sur la moto dans quelques instants. Notez à l'arrière du groupe maillot jaune la présence un peu inquiétante, il faut bien le dire, du meilleur français au classement général. C'est Tony oui. Gallopin, 7e ce matin et qui était très bien avant-hier et hier dans les deux premières étapes pyrénéennes. Tony Gallopin qui pointe à 4,33 de Christopher Froome. Il est en serre-fil du peloton maillot jaune, toujours relativement conséquent. Peut-être est-ce le jour 100 pour le coureur originaire de l'Essonne.
Mais Cyril nous le disait hier, il avait surtout peur pour Tony Gallopin pour cette étape, cette troisième étape avec la multiplication des sommets, des cols. Cyril, on sait que Tony s'est accroché comme un fou hier et avant-hier, notamment dans une ascension sèche et hier lorsque ça n'avait pas monté trop vite dans le groupe maillot jaune. Mais là aujourd'hui effectivement ça pourrait être dur pour Tony, hein.
Oui, j'avais remarqué également qu'il était en serre-fil. Alors est-ce qu'il est redescendu peut-être pour avoir un bidon ou... Mais c'est pas son habitude de redescendre comme ça. Je suis un petit peu inquiet, mais ouais. Il faut attendre encore un petit peu. Ils ne sont pas très loin du sommet. Il peut encore peut-être se refaire un petit peu, un petit passage à vide. Espérons que c'est un petit passage à vide dans ce port de l'Hers. Mais c'est évident qu'il ne pouvait pas passer plusieurs jours avec les meilleurs grimpeurs du peloton sans un moment ou un autre payer l'addition.
Ouais, on espère que.
Mais on espère que.
Ouais, on espère que, évidemment, parce que tout à l'heure, ça risque quand même d'accélérer à un moment donné dans l'ascension du plateau de Baye, Cyril.
Non,
même pas.
Non, j'ai failli vous faire une musette d'ailleurs sur une indiscrétion, mais bon, faut faire attention, vous savez, parce que j'ai piraté les oreillettes de certaines équipes, et apparemment, il y aura un consensus pour que l'étape soit neutralisée. Voilà, donc entre les équipes favorites, bien sûr. Alors, je ne sais pas si j'ai bien piraté les bonnes oreillettes ou pas, on verra à l'arrivée.
En quel honneur on neutraliserait la course parmi les prétendants en général, les adversaires de Christopher Froome?
Vous savez, la course est quand même très bizarre depuis. Tous les jours, il se passe quelque chose sur la route du Tour. Alors, est-ce qu'on ne va pas attendre purement et simplement les derniers kilomètres, sachant qu'il y a vent de face pour finir ici, et que le fait même, d'ailleurs, qu'on laisse partir cet échappé prendre autant d'avance, ça veut dire qu'on ne s'intéresse pas à la victoire d'étape pour des coureurs comme Quintana ou Valverde, entre autres. Donc, j'ai un peu le sentiment que, pour l'instant, la hache de guerre est enterrée.
Très bien. Grosse averse ici.
C'est de la grêle qui s'abat sur le plateau de Baye ici à l'arrivée. Oh là là, conditions apocalyptiques ici sur la ligne. Ce n'est pas encore le cas sur la tête de course qui pointe dans la descente du port de l'Hers à 48 km de l'arrivée. Si les coureurs se prennent ces petites billes de glace qui sont en train de tomber sur la ligne d'arrivée ici, ça fera très très mal. Et là, on comprendrait une neutralisation de la course de la part des favoris. Mais clairement, Cyril, je suis pas d'accord avec ce que tu dis, et j'espère que ton piratage est un peu éventé. J'espère qu'il y aura bagarre vers le plateau de Baye.
On verra ça tout à l'heure. Allez, on va retourner voir la moto et Georges Quirino, accompagné de son de Marco Bénur, évidemment, qui a changé de klaxon, paraît-il. C'est vrai?
On est au pays de l'ours, hein. Le gros doudou Marco.
L'homme qui a vu l'ours. C'est Georges qui voit l'ours tous les jours. Georges, donc dans la descente du port de l'Hers.
Oui, c'est un peu dur de faire marcher le klaxon quand on est dans la descente. Hein. Quand même, on a basculé au sommet devant les zones de tête. On est dans cette descente qui n'est pas très roulante. Elle est assez technique. La chaussée est un peu étroite. La chaussée surtout est d'assez mauvaise qualité. En tout cas, le revêtement. Et puis surtout, la chaussée est humide. La chaussée est humide là sur la descente. Pas sur le premier kilomètre, mais là depuis. On est face à une route détrempée. Et donc, ça va rajouter certainement de la nervosité pour les coureurs tout à l'heure. En tous les cas, on regarde devant nous, on voit des gros nuages gris. On n'a pas encore la grêle, mais on la voit venir quand on regarde devant nous.
Regarde-la bien de loin, tu la verras de près tout à l'heure. 64 km/h dans la descente pour les hommes de tête, Van Mark et Kaptowski. Ça roule très très vite. La grêle qui s'abat avec force ici sur la ligne d'arrivée. Mais on va tout de suite retrouver Dédé, notre ami Dédé, puisqu'on l'a retrouvé comme tous les jours. André qui pensait qu'il allait devoir refaire la route parce qu'il y avait du reçuage, il n'y a plus de reçuage puisqu'il tombe des cordes. Il va bientôt falloir envoyer le chasse-neige ici à l'arrivée au plateau de Baye, mon Dédé. Hein.
Et oui, on s'attendait à la chaleur, on l'a eu sur une grande partie de l'étape, avec des températures au sol qui ont dépassé les 50 degrés. Et puis là, le disait Georges sur la moto, et bien la route est mouillée dans la descente. Du port de l'Hers, quand moi j'y suis passé, il y a une petite demi-heure, on s'est pris une énorme averse. Et donc la route est bien détrempée, avec certains endroits qui sont sous les arbres, qui eux restent secs. Donc il y a des ruptures d'adhérence. Et surtout, comme la route a été très chauffée pendant la journée, le fait qu'elle soit humide à certains endroits, ça la rend beaucoup plus grasse. Donc c'est encore plus dangereux qu'une route complètement mouillée. Prudence dans cette descente qui, et Georges avait également raison, n'est pas d'une qualité exceptionnelle. C'est un peu une litote, un euphémisme, puisqu'on est quand même sur une route qui est cabossée avec des plaques, des reprises, comme on dit. Ça brinque pas un peu de droite et de gauche. Et puis c'est étroit et très technique.
Et oui, effectivement, cette descente du port de l'Hers, dernière descente de la journée. Hein. Ensuite, ça va monter, donc évidemment, ce sera moins dangereux, mais elle est quand même assez redoutable, hein, Fred. Hein.
Oui, ça va vite, 65 km/h, ça va vite, mais ça allait encore plus vite hier dans le Tourmalet, puisqu'on a vu dans la foulée de l'étape d'hier des coureurs poster des commentaires sur les réseaux sociaux avec leur vitesse maximum atteinte pendant l'étape dans la descente du Tourmalet. On en parlait hier pendant le commentaire. C'est allé au-delà des 100 km/h sur un vélo. 102 km/h pour Michel Kwiatkowski qui en ce moment est à l'avant de la course dans la descente du port de l'Hers. Et même un Mark Renshaw, coéquipier de Cavendish chez Etix Quickstep, qui a été flashé à 107,7 km/h dans la descente du Tourmalet. Ces gars-là sont de grands malades.
Très bien. Merci André d'être venu dans l'Intégral Tour comme tous les jours. Tu peux te mettre à l'intérieur de ton gros Léon.
Jusqu'à le balai.
Voilà, reste sous le balai parce que là ça tombe vraiment à verse et on plaint évidemment tous les spectateurs qui ont pris place sur les bords des routes.
Ça tombe aussi à verse maintenant dans la vallée, là où je suis. Ça pleut bien en bas de descente.
Et oui, et on craint même que l'eau qui est en train de tomber n'arrive sur, ne se transforme en torrent. Hein. Pierre-Yves Leroux est allé faire un tour dehors. C'est impressionnant là.
Hein. Je suis désolé, j'aurais pas dû chanter.
Ah oui, le barbe breton va vraiment le ligoter maintenant.
Non, c'est un vrai déluge. Et puis comme c'est en pente, forcément, les eaux sont en train de ruisseler partout. Pour les spectateurs, c'est terrible. Pour la zone technique où tout le monde est installé, c'est aussi toujours impressionnant, et surtout on espère que les coureurs vont pas être touchés par cet orage de grêle, parce que là ça pourrait faire des dégâts.
Oui, mais le point positif c'est que ça fait sur la ligne d'arrivée un très très joli concours de t-shirts mouillés. Hein.
C'est vrai. Chacun n'a pas la même analyse.
Oui, non, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que tout ce qui tombe maintenant ne tombera pas quand les coureurs passeront.
Oui. Cyril, on va pas neutraliser l'étape. On sait qu'on a pris l'habitude de temps en temps de neutraliser quand il se passe des choses. Mais là, est-ce que c'est des conditions qui pourraient inciter les organisateurs à faire quelque chose? Il y a plus de descente là. C'est une montée qui les attend maintenant. Donc a priori pas de gros danger, mis à part la foudre évidemment qui peut s'abattre.
Oui, hein. Bien sûr. Mais bon, dans l'ascension, je ne pense pas qu'on puisse neutraliser. La pluie sera la même ou la grêle sera la même pour tout le monde. Ceux qui risquent peut-être de neutraliser, c'est les coureurs qui risquent de dire bon, hop, on s'arrête, on met les impairs, on met les protèges ceci, et puis on finit tranquillement dans la mesure où on est tous ensemble. Ça peut être possible.
Très bien, Fred, tu veux ajouter un mot rapide?
C'est récurrent la neutralisation qu'évoque Cyril. Il doit avoir de vrais tuyaux. Luc n'a pas entendu ce que disait Cyril Guimard tout à l'heure sur une possible et concertée neutralisation de la course par les favoris. Voilà le genre de nouvelle qui ne va pas plaire à Luc, l'éternel attaquant qui n'hésitait pas à mettre la braquasse.
Il est désespéré, ouais. Lucho là.
Mais il est cramé. Il est cramé aussi, hein.
Oui, un peu cramé.
Non, je suis pas cramé. Si. J'étais cramé en bas. Il faisait une chaleur, mais pas possible.
Et là, il fait bon.
Du col,
j'ai 25 degrés.
Si je suis arrivé de bonne heure au pied du col, en attendant que je passe en direct, j'ai dit mais va jamais me passer le cri-cri là.
On prend l'antenne à 14h pendant 1h15.
Alors la question sur cette neutralisation, la question c'est est-ce que trop de col ne tue pas la montagne? Est-ce que mettre 4 grosses difficultés en 3e journée pyrénéenne ne va pas neutraliser la course? On en reparle dans quelques instants.
Très
c'est
bien.
Intéressant.
On va en parler dans quelques instants effectivement avec ce débat lancé par Fred. Mais auparavant, c'est l'heure des paris, messieurs.
Les paris RMC Tour de France.
Attention,
chute à l'avant. Peut-être que Georges a assisté à cette gamelle de Luis Mengis, l'un des coureurs qui est en tête de la course. Le jeune grimpeur sud-africain de l'équipe MTN Kubeka. On parlait de cette route de la descente du port de l'Hers qui n'est pas bonne. Le revêtement n'est pas bon, mais surtout, et c'est l'un des ennemis majeurs des cyclistes. La route est étroite et surtout, elle navigue entre sèche et humide. On ne sait pas très bien à quoi s'en tenir. Parfois, on freine sur du sec et on se retrouve sur une plaque de mouillé. Prudence, et notamment dans le peloton maillot jaune dans quelques minutes.
Voilà, il faut ajouter que vous n'avez pas obligatoirement les mêmes goudrons suivant la portion de la route où vous vous situez et qu'elles sautent énormément. C'est-à-dire que dans certains virages, vous avez un décrochage parce que vous passez sur des petites bosses.
Oui, mais le pire, c'est que comme le goudron a fondu avant qu'il pleuve, si tu veux, donc la pluie plus le goudron qui a fondu avant, je peux te dire que c'est une véritable patinoire.
Voilà, patinoire, attention messieurs les coureurs, faites attention dans la descente du port de l'Hers. C'est la dernière descente de la journée, je le rappelle.
Il va y avoir une attaque dans la descente.
Toujours rêver. Bah, on peut toujours rêver, mon Lucho. Les paris, on accueille Benji. Donc, salut Benji.
Salut messieurs.
Salut Benji. On va rappeler donc les codes des différents favoris qui ont forcément évolué avec cette échappée au long cours qui compte encore quasiment 10 minutes d'avance sur le peloton maillot jaune. Hein.
Et le grand favori désormais c'est Jakob Fuglsang devant Joaquin Rodriguez. Fuglsang c'est 2,30, Rodriguez c'est 4,50, Romain Bardet troisième favori 4,60. Aucun des coureurs que l'on avait donné hier soir n'est présent dans les premiers favoris. Je rappelle que Cyril avait donné Quintana, Christophe tu avais donné Froome tout comme Virginie, Lucho Valverde, j'avais donné Pierre Roland et Bourguet Richie Porte. Donc on est loin pour l'instant.
On est très,
non,
très
mais
loin.
Moi j'ai mis Kaczowski hier.
Non, l'autre chose, ça c'était.
C'était avant-hier.
Ton coup de bluff, ça marche pas.
C'était bien joué.
Non,
mais c'est bien tenté. Hein.
Fred, tu n'as pas parié hier. Évidemment, non. C'est plus facile parce que là, il y a une échappée. Mais est-ce que...
non, si tu veux, je joue pas. Hein.
Non, mais vas-y. Quel est ton favori là parmi
Là, maintenant, j'ai envie de jouer Bardet parce que le coup de pédale de Romain Bardet après deux jours de crise de la part du grimpeur auvergnat de l'équipe AG2R La Mondiale est toujours aussi séduisant. C'est un coureur qui est vraiment intéressant. Le coureur de 24 ans. Romain Bardet qui est, on le rappelle, dans un groupe de contre-attaque derrière les deux hommes de tête à 38 km de l'arrivée. Attention, à l'avant du peloton, les Sky ont manqué de faire un tout droit dans une épingle à cheveux à gauche. Il va falloir être prudent dans les kilomètres qui viennent. Le peloton toujours dans la descente du port de l'Hers.
Pendant ce temps-là, moi je punis le Bard qui nous a fait tomber la grêle dessus. Je le laisse là se faire bombarder par les petites boules de glace qui tombent avec une
c'est
violence.
C'est plus gros, hein.
C'est reparti.
C'est par intermittence. Mais il grêle donc sur la ligne d'arrivée. Merci Benji, à tout à l'heure pour les paris. Ce sera donc aux alentours de 19h50 pour faire le point et puis pour parier évidemment sur l'étape de demain.
PMU.fr, paris sportifs, paris hippiques, poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Voilà, Fred, on va s'interrompre dans quelques instants. On va faire un point sur la course, un point complet. Ce sera dans une minute. On est à 37 km 400 de l'arrivée. On rappelle que la dernière ascension du jour, celle du plateau de Beille, est quasiment longue de 16 km.
Et elle est sous les eaux en ce moment.
Elle est sous les eaux, sous la grêle, sous la glace. Ça va être quelque chose, cette montée que les coureurs aborderont dans un petit moment et que l'on va vivre évidemment dans l'intégral tour. À tout de suite. Allez Fred, point complet justement, tu as 2 minutes pour tout nous dire sur ce qui se passe sur la route du Tour.
Avec deux hommes en tête à 37 km de l'arrivée dans la vallée en bas de la descente du port de l'Hers. Deux hommes en tête, Kwiatkowski et Van Mark, le Polonais et le Belge. Ils sont poursuivis par Romain Bardet, Joaquin Rodriguez, Gorka Izagir, Jakob Fuglsang, Romain Sicard et Michael Schérel. Trois Français dans ce groupe de 6 contre-attaquants. Des contre-attaquants qui pointent à une trentaine de secondes du duo tête. Ça devrait rentrer sur le duo Kwiatkowski et Van Mark. Un déluge en ce moment sur la route à 36 km de l'arrivée. La tête de course qui compte toujours plus de 10 minutes d'avance sur le peloton maillot jaune. Un peloton maillot jaune qui est encore dans la descente du port de l'Hers et qui est exposé aux chutes. Tout à l'heure, on a vu celle du jeune grimpeur sud-africain Luis Mengis, champion d'Afrique en titre. Talentueux grimpeur qui découvre à 23 ans les routes du Tour de France, tout comme tous ses coéquipiers de la formation sud-africaine MTN Kubeka. Les coureurs prennent un visage héroïque aujourd'hui sous un déluge de pluie et peut-être de grêle tout à l'heure dans l'ascension du plateau de Beille. Plateau de Beille, tu l'as dit Christophe, classé hors catégorie, long de 16 km avec 8% de déclivité moyenne. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est quand même que la Bérézina des deux jours précédents côté AG2R est en train d'être oubliée. Jolie réaction d'orgueil de Romain Bardet et de Michael Schérel, présent dans le groupe de contre-attaquants en compagnie de Rodriguez, Izagir, l'Espagnol de Movistar, Romain Sicard, le coureur basse de l'équipe Europcar, et Jakob Fuglsang, le dangereux coureur danois de l'équipe Astana. Le peloton maillot jaune, on le rappelle, a tout de même encore perdu Jean-Christophe Perrault aujourd'hui. Thibaut Pinot, Warren Barguil et Tony Galopin sont toujours dans la roue du maillot jaune, le maillot jaune qui fait la descente en tête.
Très bien, l'intégral tour, on est de retour dans 10 secondes, à tout de suite.
RMC, Intégral Tour, Christophe Cessieux.
33 km de l'arrivée de cette 12e étape du Tour de France. C'est le déluge qui s'abat ici sur la ligne d'arrivée et dans la montée du plateau de Baye que les coureurs n'ont pas encore atteint mais qu'ils ne devraient pas tarder à voir. Et évidemment, si les conditions restent identiques, ça risque de faire des dégâts tout à l'heure. Avant de faire un point sur la course, c'est l'heure du jeu Tour de France RMC. Aujourd'hui, vous pouvez gagner le jeu de société L'échappée infernale, le livre Parlons vélo de Marc Madiot aux éditions Talents Sport et deux places VIP pour assister dans les meilleures conditions à l'arrivée du Tour sur les champs pour tenter de gagner ce superbe pack cadeau appelé le 32-16 touche 6 ou envoyer le mot-clé RMC par SMS au 732-16. Bonne chance. 32 km de l'arrivée, donc je vous le disais, Fred, et le peloton et les échappés. Tout le monde est dans la descente du port de l'Hers où là aussi il pleut, évidemment. Hein.
Oui, la tête de course qui en a fini avec la descente, qui se rue désormais vers le pied de la montée finale, l'ascension vers le plateau de Baye qui commence au lieu dit les cabanes. 16 km d'ascension, cette montée finale. Il reste donc exactement 16 km avant d'atteindre le pied de cette montée. Michal Kwiatkowski et Sepp Van Marck, deux excellents rouleurs, ne perdent rien et reprennent même du temps à leurs contre-attaquants, un groupe de contre-attaquants où, on vous le rappelle, on trouve l'Espagnol Purito Rodriguez, le Danois Jakob Fuglsang, l'Espagnol Gorka Izagirre et trois Français, Romain Bardet et Michael Chérel chez AG2R La Mondiale, ainsi que Romain Sicard, le Basque de l'équipe Europcar. À noter le retour à l'instant avec le cuissard déchiré sur le côté droit du jeune grimpeur sud-africain Luis Mengis de l'équipe MTN Kubeka qui a chuté dans la descente du port de l'Hers. Luis Mengis qui, avec ses petits copains contre-attaquants, pointe maintenant à une minute du duo tête. Le groupe maillot jaune est à 10 minutes 30 de la tête de la course. Un groupe maillot jaune emmené par Peter Kenhoff, le champion de Grande-Bretagne, coéquipier du maillot jaune Christopher Froome. Les Sky qui font la descente en tête, mais on a vu des roues arrière chasser la route. La descente du port de l'Hers oscille entre sèche et très humide et c'est particulièrement casse-gueule pour le groupe maillot jaune. Pour l'instant, pas de chute à déplorer.
Et Lucho espérait une attaque de Nibali dans la descente, mais bon, pas a priori, personne
J'ai jamais dit que j'espérais une attaque de Nibali dans la descente.
Non,
j'ai dit s'il pouvait pleuvoir un peu dans la descente, ça pourrait peut-être faire des différences.
T'as vu comme les journalistes déforment tes propos?
Mais oui, non, mais de toute façon, ça a toujours été comme ça, mon cher Fred. C'est pas de maintenant. Non, mais.
Non, c'est
bon, très honnêtement, bon. Qu'est-ce que tu veux que je dise de l'étape d'aujourd'hui ?
Eh ben, on parle de Nibali. Tu vois que Nibali n'est pas en position d'attaquer parce que les Sky emmènent un train d'enfer dans la descente. Vous parlez de Nibali, messieurs, sachez que le torchon brûle entre Vincenzo Nibali et son patron kazakh Alexandre Vinokourov, patron de l'équipe Astana, qui est en train de pousser Vincenzo Nibali vraisemblablement vers le départ. Il a livré quelques commentaires acerbes ce matin au départ de Lannemezan. Alexandre Vinokourov qui au vu des piètres performances du vainqueur sortant sur ce Tour de France, 11e du général, on le rappelle ce matin, à plus de 7 minutes de Christopher Froome, Nibali est prié par Alexandre Vinokourov de s'aligner sur la Vuelta, ce qui n'était pas prévu dans son programme initial. Apparemment, Alexandre Vinokourov met Nibali face à ses responsabilités et surtout à son salaire de 4 millions d'euros par an.
Et Oleg Tinkoff lui a envoyé un tweet ce matin en disant full gaz aujourd'hui, Vincenzo Nibali, Alberto Contador, etc. Ça se joue aujourd'hui face à Chris Froome dans les descentes.
Oleg Tinkoff, l'oligarque russe propriétaire de la formation Tinkoff Saxo. Tinkoff qui
lui met la pression sur Contador.
Exactement, Tinkoff qui pousse tout ce qu'il peut, tandis que Cyril Guimard nous parle d'une hypothétique neutralisation des favoris dans l'étape d'aujourd'hui avec cette montée finale vers le plateau de Baye, pourtant très très beau terrain d'attaque.
Alors Cyril, rappelle-nous un peu les informations que tu as pu collecter concernant cette éventuelle neutralisation, parce que ça nous surprend quand même cette histoire.
Eh ben ça ne peut que vous surprendre.
Parce qu'on n'y connaît rien, c'est ça ?
Non, parce que je suis dans le virtuel.
D'accord.
Je n'ai aucune information.
Ah bon ?
Mais non, j'ai pas eu d'information.
Il bluffe. Quel joueur de poker,
mais je vous l'ai dit tout à l'heure que j'avais intercepté
des conversations sur les oreillettes. Comment voulez-vous que je le fasse? Je suis ici sur la ligne d'arrivée.
Voilà,
les oreillettes ont une portée qui dépasse pas un kilomètre et demi.
On est
vous n'êtes pas perspicace.
On est de retour aux grandes heures du druide qui savait jouer avec les informations distillées ici et là quand il était patron d'équipe et même coureur cycliste.
Alors par contre, Florian Pinet, sur le hashtag RMC Live, nous dit, alors je ne sais pas si c'est une information qu'il a ou si c'est juste une intuition, il dit si la grêle continue, l'arrivée de l'étape se fera au pied du plateau de Bail, la montée pourrait être neutralisée, et de préciser que ça s'était déjà fait lors de la première étape du Tour de Pologne en 2014, où la course avait été neutralisée une vingtaine de kilomètres pour cause de grêle et de tornade, Fred.
Oui, oui, ça se voit régulièrement. On rappelle, on se rappelle qu'il y a une étape du Tour d'Italie qui avait été neutralisée, pas celle où Nairo Quintana avait fait basculer la course voilà un an et deux mois, mais l'année d'avant, il me semble que la grêle effectivement avait interrompu la course. On avait planqué les coureurs sous des abribus ou dans les véhicules suiveurs. Milan-San Remo, il y a trois ans également, avait été neutralisé. On avait passé le Turchino, qui est la mi-course sur Milan-San Remo. On l'avait passé dans les bus pour éviter la neige. Là, c'est une arrivée au sommet. Je vois mal les organisateurs du Tour de France faire l'économie d'une arrivée spectaculaire.
L'étape Rennes aujourd'hui, là, franchement, je pense qu'il se ferait taper sur les doigts. Georges, sur la moto RMC, Quintana, il me semble, Georges avait couru dans des conditions dantesques sur le Giro aussi. Hein.
Non, c'était pas au Giro, c'était à Tirreno-Adriatico cette année. Où, souvenez-vous, il a gagné sous la neige devant tous les grands favoris. Donc, on se dit quand même que notre ami colombien, il peut être dans la tranquillida avec des conditions extrêmes dans la montée vers le plateau de Bay.
Et il l'a placé, c'est bien. Georges qui revient dans le tour progressivement. Il lui aura fallu 10 étapes.
C'est un peu notre Romain Bardet à nous.
C'est les gros moteurs qui ont des facultés de récupération au-dessus de la moyenne.
Là j'en reviens quand même. Là, vous parliez de grêle tout à l'heure dans la dernière montée. Pourquoi neutraliser, même si un petit peu de grêle dans la montée, ça dure quoi, 5 minutes? Regardez, la verse est déjà terminée.
La montée, 5 minutes? Non.
Non, la grêle.
Ah, ça fait une demi-heure qu'il tombe de la grêle quand même.
Faut pas exagérer. Mais enfin bon, en montée, il n'y a aucun risque. Ils montent, ils descendent pas. Donc pourquoi neutraliser la course en montée?
Et puis comme ils prennent la douche avant même d'arriver au bus.
L'autre show, tu vas te faire taper sur les doigts.
Non mais attends, je me souviens.
T'as déjà roulé sous la grêle
Autour d'Italie 1996, et c'était pire que ça. C'était pire que ça. Ça a duré un temps indéfini et la direction de course n'a pas arrêté la course. Le commissaire de l'époque, UCI, n'a pas arrêté la course. La course a continué avec eux. Mais vraiment, c'était horrible.
Mais si les coureurs avaient arrêté, je crois que dans certaines circonstances, il faut savoir où on se trouve, comment on se situe, dans quelles conditions.
Mais là, dans une montée, c'est
horrible. Je ne sais pas si ça t'est arrivé, mais sous la grêle, il y a un moment où tu te retrouves avec des grains de grêle qui viennent te taper sur les ongles, sur les mains, sur le visage. C'est très, très limite. Hein. Tout dépend de la grosseur du grêlon.
Tout dépend de la grosseur du grêlon. On est d'accord.
Alors que les hommes de tête, Fred, viennent de sortir de Tarascon sur Ariège, ils ne vont pas tarder aborder la dernière difficulté du jour, la montée vers le plateau de Bail, 25 km de l'arrivée.
Exactement, à 9 km du début de l'ascension finale vers le plateau de Bail. Pas de pluie en ce moment sur les deux hommes de tête. Les perturbations sont concentrées, semble-t-il, au plateau de Bail, à 1780 mètres d'altitude. Les deux hommes de tête, Van Mark et Tiatkowski, qui comptent désormais 1 minute 30 sur leur poursuivant et plus de 10 minutes d'avance sur le groupe maillot jaune.
Et la moto RMC de Georges et de Marco se trouve juste derrière les deux hommes de tête. Georges.
Juste devant Michel Viatowski et Sepp Van Mark qui nous font une sacrée impression en position de contre-la-montre parfois pour le champion du monde polonais. Et on est sorti de Tarascon sur Ariège, Christophe, et là tout à coup on a basculé à droite et on a eu une chaussée complètement sèche, c'est à ne plus rien comprendre, alors qu'on avait une chaussée mouillée dans la descente. On est sur des routes désormais très larges, vraiment dans la vallée, là ça ne descend plus, on est sur le plat et on reçoit sur le nez quelques gouttes de pluie. Et devant nous, on vient de voir la foudre frapper devant nous, loin, je vous rassure quand même, mais on vient de voir la foudre, et les coureurs ont dû la voir également.
On a vu la même.
Ah, bah, vous l'avez entendu, mais c'est plus proche de vous. Alors,
ah, elle est au-dessus.
On a vu la même.
Heureusement qu'on est dans le camion.
Ouais. Très bien. Tu parles pour Georges, tu te moques de lui. T'es pas gentil quand même. T'es vraiment pas sympa. Très bien, Georges. Allez, on va s'interrompre quelques instants.
Demain,
on
laisse
passer les infos de 16h et on revient pour la dernière ascension du jour. Va-t-il se passer quelque chose dans cette ascension du plateau de Bay? Quintana, Contador, Nibali et les autres vont-ils tenter quelque chose? Oui, on y croit, on espère en tout cas y croire. Ça se passera dans quelques
c'est
instants.
C'est toi qui attaque, sur Christophe.
A tout de suite.
Tu t'excites?
RMC, Intégral Tour.